Et donc, on va voir, Étienne va nous montrer qu'un diacre, c'est plus que servir aux tables, même si ça, c'est un service qui est tout à fait honorable. Mais on va voir, Étienne, eh bien, il a laissé des traces qui sont dans la Bible ici. Et donc, diacre, je vous rappelle, ça veut dire serviteur. Et Étienne va témoigner de sa foi. Et donc, on va voir que son témoignage ne va pas plaire, va susciter la colère des religieux juifs. Rien de nouveau, ça l'a suscité pour Jésus, ça le suscite aussi pour ses serviteurs. Et donc, Étienne, comme son maître, Jésus va être accusé faussement, comme l'a été son maître, le serviteur Jésus, le serviteur par excellence. Donc, on va reprendre à Actes, chapitre 6, à partir du verset 8. Et comme le texte est assez long, je vais le lire en plusieurs fois. Je m'arrêterai, je reprendrai. Et donc, voilà, Actes, chapitre 6, verset 8. Seigneur, merci d'ouvrir notre cœur à ta parole et qu'elle agisse dans notre cœur. Amen. Actes 6, 8. 8, Actes 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et des signes parmi le peuple. Quelques-uns parmi ceux de la synagogue, dits des affranchis, parmi les Cyrénéens et les Alexandrins, et parmi ceux de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec Étienne. Mais ils n'étaient pas capables de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, puis ils survinrent, le saisirent de force et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre ce lieu saint et contre la loi. » Car nous l'avons entendu dire que Jésus, le Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin fixaient les regards sur lui et virent son visage comme celui d'un ange. Jusqu'ici pour le moment la parole de Dieu. Voilà donc, rien de nouveau, Étienne, témoin de sa foi, il est amené devant le conseil religieux juif, le Sanhédrin. Et là, il est accusé faussement, comme l'a été Jésus. De quoi est-il accusé? Il est accusé de paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu, verset 11. Et pas seulement, il est aussi accusé de paroles blasphématoires contre le temple et la loi de Dieu. Étienne, il a subi le rejet de la part de ses compatriotes. Rien de nouveau. Mais, et ça sera ma vérité centrale, je vais articuler mon message autour de cette vérité, le rejet n'arrête pas l'œuvre de Dieu, mais au contraire contribue à la faire avancer. Le rejet n'arrête pas l'œuvre de Dieu, mais au contraire, contribue à la faire avancer. À la faire avancer, parce qu'il s'agit d'avancer. J'ai donné comme titre à mon message, « Toujours en marche vers la terre promise ». La terre promise, ce n'est pas une vieille histoire. Nous sommes toujours en marche vers la terre promise. C'est comme ça que nous devons nous considérer, avancer. Donc, Étienne est accusé faussement. Et comment va-t-il se défendre? Il ne va pas chercher à se défendre en cherchant à se justifier. Il ne va pas parler de lui. Il va plutôt parler de ceux qui les accusent, à savoir le peuple d'Israël. Il va résumer prophétiquement à ses détracteurs juifs l'histoire de leur propre peuple, Israël. Cette histoire qu'il connaît très bien. Et là, on va parcourir toute l'histoire du peuple hébreu. Hein, vous êtes prêts, hein, parce que c'est ce qu'on va trouver dans le discours d'Étienne. Étienne qui connaît très bien son histoire, comme quoi être diacre, c'est certainement pas péjoratif, ça dépasse le simple fait de servir aux tables. Étienne va dire la vérité, sans détour. Il va être conduit par le Saint-Esprit, verset 10. Et on peut lui appliquer cette promesse de Jésus en Luc 12, verset 11 et 12, qui a dit ceci, je vous relis Luc 12, verset 11. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. Et Étienne en est un parfait exemple. Le visage d'Étienne comme celui d'un ange. Pourquoi cette précision, verset 15? Est-ce que c'est pour l'apparence? Non. Son visage reflétait sa vie intérieure. Sa vie intérieure, c'était une vie de serviteur. Il était serviteur, Étienne, un diacre. Un serviteur plus soucieux de plaire à Dieu dans la vérité, de respecter la vérité, plutôt que de plaire aux hommes. Voilà ce qui faisait son visage d'ange. Et il va montrer par son discours qui va suivre toute la fidélité de Dieu, en même temps que l'infidélité du peuple d'Israël au cours des siècles. Et cela, bien sûr, ne va pas plaire à ses détracteurs. Donc, je continue la lecture à partir du chapitre 7. Et là, je vais lire du verset 1 jusqu'au chapitre 8. Donc, la suite. Étienne, donc, accusé devant le Sanhédrin. Verset acte 7, 1. Le souverain sacrificateur dit alors, « En est-il bien ainsi ?» Étienne répondit, « Vous, frères et pères, écoutez, le Dieu de la gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il habite Charan. Et il lui dit, « Sors de ton pays et de ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et habita Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna dans ce pays aucun héritage, pas même de quoi poser le pied, mais il lui promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, alors qu'il n'avait pas d'enfant. Alors, les origines, Étienne remonte aux origines du peuple d'Israël, et les origines, on remonte jusqu'à Abraham. Mon premier point, eh bien, c'est que Dieu veut se constituer un peuple pour le conduire vers la terre promise. Dieu veut se constituer un peuple pour le conduire vers la terre promise. Et ça commence par quoi? Par l'appel d'un seul homme. Par l'appel d'Abraham. Je continue au verset 6. Ta descendance séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude. Et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et me rendront un culte dans ce lieu-ci. Puis Dieu lui donna l'alliance de la circoncision, ainsi Abraham engendra Isaac, et le circoncis le huitième jour. Isaac fut de même pour Jacob, et Jacob pour les 12 patriarches. Dieu a donc commencé à se constituer un peuple en appelant un seul homme, Abraham, à l'appeler à quoi faire, à sortir de son pays, à se mettre en mouvement, à aller, lui et sa famille, en lui faisant une promesse que la terre de Canaan reviendrait à ses descendants. Alors qu'il n'avait pas d'enfant, hein, Sarah était stérile. Cette promesse, Dieu y a, Abraham y a cru. Abraham a saisi cette promesse par la foi et il a obéi, il est parti. Il est parti même s'il ne traverserait, il ne ferait que traverser cette terre. Dieu ne lui en faisant pas encore, ne lui en a pas donné une portion. Ce sera à ses descendants. C'est cette terre qui deviendra la terre d'Israël, d'où Étienne sera accusé. Étienne, donc, il va parcourir l'histoire du peuple d'Israël, et par là, il va montrer que Dieu, il est le Dieu de l'histoire, et ça nous concerne aussi. L'histoire, elle a un sens. Dieu conduit l'histoire, il sait exactement ce qui va se passer demain et dans quelques semaines, de même qu'il a montré à son peuple Israël qu'il savait ce qu'il allait lui arriver. Et Étienne donc va montrer que Dieu est le Dieu de l'histoire qui tient ses promesses toujours, qui a annoncé d'avance à Israël qu'il serait mené en esclavage et pendant 400 ans et qu'il libérerait son peuple de l'esclavage. Tout cela, Dieu l'avait annoncé parce qu'il n'est certainement pas dépassé par les événements. Et puis, puisque Dieu veut se constituer un peuple, eh bien, Étienne évoque l'alliance avec Dieu par la circoncision de Abraham et de ses descendants, Isaac, Jacob et les enfants de Jacob, qui sont les 12 patriarches à l'origine des 12 tribus d'Israël. Pour quelle raison cette alliance? Parce que Dieu veut se constituer un peuple pour le conduire vers la terre promise. Quelle intention bienveillante pour Dieu, de Dieu pour son peuple. Et puis l'histoire va continuer, et cette fois, Étienne va continuer en mettant le focus sur l'histoire de deux hommes précis, qui seront Joseph et Moïse dans la suite. Deux hommes qui ont un point commun, c'est que tous les deux ont été rejetés par leur peuple, pour devenir le sauveur de leur peuple, qui les ont rejetés. Mon deuxième point, c'est que Dieu utilise des rejetés de son peuple, par son peuple, pour nourrir son peuple, puis pour libérer son peuple de l'esclavage. Dieu utilise des rejetés de son peuple par son peuple pour nourrir, puis libérer son peuple de l'esclavage. Commençons par Joseph, un des 12 patriarches. C'est Joseph que ses frères ont vendu comme esclave. Pourquoi? Par jalousie, parce que Joseph était le chouchou de son père Jacob. Mais par son histoire, eh bien, Étienne va montrer que Joseph, qui a été rejeté, eh bien, il va être utilisé par Dieu pour nourrir son peuple qui l'a rejeté. Pourquoi ? Parce que Dieu était au contrôle. Je poursuis ma lecture à partir du verset 9 jusqu'au verset 16, donc l'histoire de Joseph. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu était avec lui et le tira de toutes ses tribulations. Il lui donna grâce et sagesse devant le Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans toute l'Égypte et en Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. La seconde fois, Joseph se fit reconnaître de ses frères et l'origine de Joseph fut connue du Pharaon. Puis Joseph envoya chercher son père, Jacob, et toute la famille composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte et il mourut ainsi que nos pères. Ils furent transportés à Sichem et déposés dans la tombe qu'Abraham avait achetée à prix d'argent des fils de Hamor à Sichem. Dieu fidèle donc, Dieu fidèle qui a tiré Joseph de toute cette tribulation, parce que Joseph a été fidèle. Il va tirer Joseph de toutes ses tribulations, il va même l'élever du rang d'esclave au rang de second du Pharaon, au rang d'administrateur de l'Égypte, pas moins, juste en dessous du Pharaon. C'est Dieu qui l'a élevé. Et Dieu avait son plan, puisque une famine est survenue. Et lorsque la famine arriva, eh bien ses frères, la famine les a touchés aussi, les frères de Joseph, eh bien, envoyés par leur père, arrivent en Égypte pour chercher de la nourriture. Et là, en Égypte, c'était Joseph qui était premier ministre. Et Joseph avait rempli les greniers de l'Égypte. Et donc, ses frères ne vont pas reconnaître Joseph immédiatement. Les frères de Joseph vont être poussés à s'humilier devant lui. Ils vont être poussés à s'humilier devant lui parce qu'ils avaient faim. Et Joseph va devenir quoi ? Il va devenir leur sauveur. Il va devenir leur sauveur. Et il va faire venir son père Jacob, après s'être fait reconnaître par ses frères, il va faire venir son père Jacob et toute la famille, il va les faire venir en Égypte. L'histoire ne s'arrête pas là. On pourrait se dire, l'Égypte, est-ce que c'est la terre promise ? Puisque là, ils ont eu du pain, ils ont eu de quoi manger. Non, ce n'était pas encore la terre promise. Bien au contraire, puisque cette terre de salut, la terre d'Égypte pour les Hébreux, est devenue une terre d'esclavage. Là où ils se sont installés, sur cette terre, c'est devenu une terre où ils allaient devenir esclaves. Ce n'était pas la terre promise, l'Égypte. Les Hébreux auraient pu le croire. Eh bien, lorsque le peuple hébreu s'est multiplié, ils vont être rendus en esclavage par le pharaon suivant, qui n'était pas du tout bienveillant comme son prédécesseur. Et alors, eh bien, Dieu va susciter un autre sauveur à son peuple. Cette fois, ça sera Moïse. Moïse qui, lui aussi, va être rejeté par son peuple. Je continue l'histoire, et là, c'est un long passage, à partir du verset 17, et je lirai jusqu'au verset 50, toujours du chapitre 7. Comme le temps approchait, où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, le peuple en Égypte s'accrut et se multiplia. Jusqu'à l'avènement sur l'Égypte d'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, avec une habileté perfide envers notre race, maltraita nos pères, au point de leur faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne conservent pas la vie. À cette époque naquit Moïse, qui était beau devant Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il fut abandonné, la fille du Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Lorsqu'il eut 40 ans, révolu, la pensée lui vint au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on maltraitait, prit sa défense et vengea l'opprimé en frappant l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait le salut par sa main, mais eux ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu de certains d'entre eux qui se battaient, et il tâcha de rétablir la paix entre eux. « Vous, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa et dit « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer de la même manière que hier tu as tué l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse s'enfuit et s'en alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert du mont Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. En le voyant, Moïse fut étonné de cette vision, et comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur se fit entendre. « C'est moi, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit « Retire tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai bien vu le malheur de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son gémissement et je suis descendu pour le délivrer. Viens maintenant pour que je t'envoie en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir en opérant des prodiges et des signes au pays d'Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, dans l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï, et avec nos pères, il reçut de vivants oracles pour vous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, mais le repoussèrent, et dans leur cœur, ils se tournèrent vers l'Égypte, en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. » En ces jours-là, ils firent un veau. Ils apportèrent un sacrifice à l'idole et se réjouirent des œuvres de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, alors qu'il est écrit dans le livre des prophètes, « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël ? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Rompha, ces figures que vous avez faites pour les adorer. Aussi je vous déporterai au-delà de Babylone. » Nos pères avaient au désert la tente du témoignage, comme celui qui parlait à Moïse avait ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait vu. Après l'avoir reçu, nos pères l'introduisirent, donc la tente du témoignage, nos pères l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays conquis sur les nations que Dieu chassa devant eux. Elle y resta jusqu'au jour de David, qui obtint la faveur de Dieu et demanda de trouver une demeure pour la maison de Jacob. Mais ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait par la main de l'homme, comme dit le prophète. « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos ? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela ?» Jusqu'ici, la parole de Dieu pour le moment. C'est pas fini. Étienne, donc, il est accusé de paroles blasphématoires, cette fois contre Moïse, verset 11. Et là, par son discours, eh bien, Étienne va montrer que ce n'est pas lui qui a rejeté Moïse. Mais c'est Israël qui a rejeté Moïse. C'est Israël qui a rejeté Moïse, c'est pas Étienne. Étienne accusé d'avoir rejeté Moïse. Et Étienne va rendre à Moïse un bel hommage, en citant sa beauté, verset 20, sa puissance en parole et en acte, verset 22, en citant son amour pour ses frères, hébreux, qui l'a poussé à les visiter, verset 23. En citant aussi l'incompréhension de la part de ses frères, lorsqu'il a voulu délivrer un de ses frères hébreux, d'un Égyptien qu'il a tué, verset 25. Et lorsqu'il a voulu aussi réconcilier deux de ses frères qui se battaient, verset 35, eh bien là aussi Moïse a été rejeté. Ils lui ont dit « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» verset 27. Et donc Moïse va partir en exil, ça va durer 40 ans. Et après 40 ans, eh bien Dieu va l'appeler. Il va l'appeler, vous connaissez l'histoire, à partir d'un buisson ardent, d'où il va faire entendre sa voix. Il va appeler Moïse, pourquoi ? Pour délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte, parce que Dieu a entendu son peuple gémir et souffrir. Et Moïse est devenu le sauveur de sa nation. Dieu opérant par lui, des signes et des prodiges. Dieu s'est fait connaître par tous ses miracles, la mer ouverte en deux. Dieu s'est fait connaître à son peuple par des prodiges et des miracles. Dieu s'est aussi fait connaître à son peuple, comment ? Par sa loi. C'est à ce moment-là, une fois qu'il a libéré son peuple, que Dieu a donné les 10 commandements. Dieu s'est fait connaître, se révélera par la loi qu'il a donnée à Moïse pour qu'il le transmette à son peuple. Donc Dieu a voulu se faire connaître de son peuple. Malgré cela, eh bien, le peuple rejettera Moïse et rejettera Dieu en préférant désobéir, en voulant même retourner en Égypte, d'où Dieu les avait délivrés. Et pire que cela, le peuple va tomber dans l'idolâtrie avec l'épisode du veau d'or qu'on connaît bien dans le désert. le veau d'or, l'idolâtrie, tout en professant adorer le vrai Dieu. Ce qui est une abomination, n'est-ce pas? Puisque c'était une idole qu'ils ont adorée. Et donc, idolâtrie, tombant dans l'idolâtrie, eh bien Dieu leur a annoncé qu'ils seraient emmenés en captivité, c'est ce qui s'est passé au-delà de Babylone. Donc Dieu savait tout cela, et Étienne a rappelé toute cette histoire du peuple d'Israël. C'est pas fini, Étienne a été accusé, comme Jésus, de parler contre le temple. Et là, Étienne va faire une démonstration magistrale que le temple, ce n'est pas le plus important. Il va montrer que le temple, si cher aux religieux, n'est pas le plus important. Pourquoi? Eh bien, quand on remonte dans l'histoire d'Israël, Abraham avait été approuvé par Dieu et il n'y avait pas encore de temple. Pendant son pèlerinage, Abraham était en voyage. Le temple n'avait pas encore été construit. Donc le temple, il n'en était pas encore question. Il n'y avait pas encore de temple pour adorer. Et Étienne, dans son discours, il insiste pour dire que Dieu n'est pas fixé dans un seul lieu. Il a appelé Abraham en Mésopotamie, il a appelé Joseph en Égypte, il a appelé Moïse au désert. Dieu n'est pas fixé dans un seul lieu, frères et sœurs. C'est bon de savoir qu'on peut lui parler dans notre chambre. Bien sûr que même nous sommes contents de nous rassembler ensemble. Et ensuite, Étienne va faire référence, toujours pour cette question du temple, il va faire référence à la tente du témoignage, le tabernacle. Le tabernacle où était l'arche qui abritait les tables de la loi. Le tabernacle construit selon le modèle donné par Dieu à Moïse. Le tabernacle, la tente du tabernacle, mise en opposition avec la tente idolâtre de Moloch, verset 43. Deux tentes complètement à l'opposé. La tente idolâtre que les Hébreux ont adorée. Le tabernacle, bien sûr que Dieu ne peut pas habiter dans un coffre, mais le tabernacle, il était là pour quoi? Il était là pendant le pèlerinage des Hébreux au désert. Le tabernacle était là pour signifier au peuple que Dieu était avec eux. Quand ils étaient en mouvement, quand ils étaient en pèlerinage, il y avait la tente du tabernacle qui ne les quittait pas. Dieu était avec eux, il accompagnait les Hébreux partout, pendant tout leur pèlerinage au désert. Ce n'est que lorsque le pays a été conquis, le pays de Canaan. Et vous avez remarqué, Joseph, Étienne ne met pas le focus sur David. Non, ce n'est pas son sujet là. Il va juste citer, David a eu à cœur de construire le temple pour Dieu, mais ça ne sera pas lui qui le construira, ça sera son fils Salomon. Ce qui est plus important pour Dieu, ce n'est pas tant cette maison, ce n'est pas le temple, mais ce qui est important pour le Seigneur, c'est l'état moral et spirituel de son peuple. Qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur? Dans notre cœur. Ce qui est plus important pour Dieu, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Et pas un temple qui ne peut pas contenir Dieu, d'ailleurs. Et Étienne cite Ésaïe 66, versets 1 et 2. Je vous le relis. Ésaïe 66, 1 et 2, que Étienne cite. « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeurer? Toutes ces choses, ma main les a faites. » Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Voilà ce qui est important pour Dieu. Un cœur qui craint Dieu, qui l'aime, et pas un édifice de pierre qui ne bouge pas. Et il y a un détail important qui m'a frappé dans le verset 46, en rapport avec ce temple. Il est écrit au verset 46, que David eut le désir de construire une demeure pour la maison de, il n'est pas écrit Dieu, pour la maison de Jacob. C'est intéressant. Ça veut dire que la maison de Jacob, c'est Dieu. C'est Dieu qui est leur maison. Ce n'est pas les pierres qui ne bougent pas. Et Dieu veut être notre temple. Il veut être, c'est lui notre temple, en qui nous sommes en sécurité. Alors voilà, donc, Étienne, il a centré son message sur son discours magistral, hein, sur deux personnes qu'il a bien soigneusement choisies, sur Joseph et sur Moïse, qui ont été deux sauveurs que Dieu a choisis. L'un pour nourrir son peuple, Joseph, et l'autre pour délivrer son peuple de l'esclavage, Moïse. Tous les deux ont été rejetés par leur peuple, puis tous les deux ont été élevés. Et bien sûr que tous les deux, on appelle cela des types, ce sont des types qui préfiguraient Jésus-Christ, des types de Jésus-Christ. Tous les deux préfiguraient Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est venu non seulement pour sauver Israël, mais tous ceux qui croiraient en lui. Quand Dieu leur envoie Moïse comme libérateur et comme pacificateur, ils le rejettent. Quand Dieu les libère, ils préfèrent adorer de vaines idoles plutôt que le Dieu compatissant. Quand Dieu leur envoie sa parole, ils n'écoutent pas. Et les hommes ne comprennent pas les prophètes envoyés par Dieu, verset 25. Ils n'ont pas compris. Eh bien, ces traits-là, bien sûr que ça nous rappelle le Seigneur Jésus. La venue du Sauveur, Jésus-Christ, appelé le Juste, lui aussi, il a été rejeté. Et c'est lui que Moïse avait annoncé prophétiquement lorsqu'il a dit que Dieu leur susciterait un sauveur comme lui, verset 37. Il s'agissait de Jésus. Déjà Moïse avait annoncé. Pour l'écouter, donc. Jésus, le Fils de Dieu, la parole de Dieu incarné, envoyé par Dieu, lui aussi sera rejeté par son peuple. Son peuple, qu'il est venu pourtant nourrir, aussi bien physiquement par la multiplication des pains que par sa parole. Rejeté par son peuple, qu'il est venu aussi délivrer, et là il s'agit de chacun d'entre nous, enfin, qu'il est venu délivrer de l'esclavage, pas des Égyptiens, mais de l'esclavage de nos péchés, de nos passions. Jésus est venu pour nous libérer de cet esclavage. Et sa crucifixion, bien sûr, sera le point culminant de son rejet. Le point culminant de son rejet avant son élévation en gloire par sa résurrection 3 jours après. Jésus rejeté, mais son rejet n'empêchera pas Dieu, bien au contraire, son rejet n'empêchera pas Dieu de sauver tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui ont compris que sa mort est le prix payé pour le pardon de nos péchés et pour nous réconcilier avec Dieu. Le rejet n'arrête pas l'œuvre de Dieu, mais au contraire contribue à la faire avancer. Jésus a été rejeté, ce que nous dit 1 Pierre 2,7 que je vous cite. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, donc Jésus, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alors le discours d'Étienne, c'est un avertissement. C'est un avertissement, même si vous n'avez pas un arrière-plan juif, c'est pour nous tous, l'Église. Le discours d'Étienne, c'est un avertissement à ne pas rejeter le sauveur ultime choisi par Dieu. Il n'y en aura pas d'autre après lui, Jésus. Bien sûr, seul Dieu peut changer les cœurs. Mais nous avons aussi cette exhortation qui est un avertissement, hein, en 1 Corinthiens 10, verset 11, que Paul fait, que je vous lis, 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées, donc aux Hébreux, hein, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Le discours d'Étienne, il est pour nous, même si vous n'êtes pas d'arrière-plan juif. Il est aussi pour vous, pour moi. Imaginez les auditeurs juifs en entendant Étienne. En réentendant l'histoire de Joseph, qu'ils connaissaient, en réentendant l'histoire de Moïse, ils ont dû vraiment se sentir mal. Ils comprenaient que Joseph et Moïse préfiguraient Jésus-Christ. Jésus-Christ le juste qu'ils ont fait tuer, en violant la loi. Et alors Étienne, là, il va durcir le ton devant ses accusateurs. Je lis la suite du récit, verset 51, je vais lire jusqu'au verset 53. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous comme vos pères. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont mis à mort ceux qui annonçaient à l'avance la venue du juste, dont vous êtes devenus maintenant les meurtriers après l'avoir livré. Vous qui avez reçu la loi sur l'ordre des anges et qu'ils n'avaient pas gardé. Il y a un renversement là des rôles. Étienne l'accusé, inspiré par le Saint-Esprit, devient le juge de ses accusateurs, qui deviennent les accusés. Renversement. Les accusés qui résistent au Saint-Esprit, nous est-il dit. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et là, on a aussi cette vérité que si on résiste toujours au Saint-Esprit, eh bien, on finit par être en guerre contre lui. Ce qu'ont manifesté les chefs religieux face à Étienne. Si on résiste au Saint-Esprit, constamment, on finit par être en guerre contre lui. À l'inverse, si on se soumet au Saint-Esprit, si on coopère avec lui, si on l'écoute, eh bien, on finira par en être rempli comme Étienne. Si on collabore, si on coopère avec Dieu, par le Saint-Esprit qui nous a envoyés, on finira par en être rempli. Il n'y a pas de compromis. Et là, c'en est trop pour les chefs religieux. Ils sont exaspérés, ils explosent de colère, ils ne peuvent ni ne veulent en entendre plus. Et vous avez remarqué, ils viennent de la synagogue, ça a commencé par la synagogue dite des affranchis, verset 9. Ils se croyaient libres, alors que c'est tout le contraire, ils étaient esclaves de leur passion, jusqu'à tuer Jésus, oui, et jusqu'à persécuter Étienne. Je poursuis ma lecture à partir du verset 54, et je lirai donc jusqu'à la fin de notre passage du jour, jusqu'à 8, verset 4. Acte 7, verset 54. En entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils crièrent alors d'une voix forte en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Et après avoir dit cela, il s'endormit. Chapitre 8. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Or Saul ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons en arrachant hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Mon dernier point, eh bien, c'est que la marche vers la terre promise, elle n'est pas terminée, elle continue. La marche vers la terre promise, elle continue. Étienne, au moment où les chefs se jettent sur lui, il lève les yeux au ciel, il a une vision. Il est rempli du Saint-Esprit, il a la vision céleste et glorieuse de Jésus qui est debout à la droite de Dieu. Il le dit. Et en le disant, les chefs religieux vont se jeter sur lui pour le lapider à mort, sans autre jugement. Étienne, bon, il aurait pu accepter un compromis pour apaiser la situation. Non, c'était pas ça, Étienne. Plutôt que d'accepter le compromis pour apaiser la situation, il a préféré mourir plutôt que de trahir l'Évangile, le dépôt de l'Évangile. Parce qu'il était faussement accusé. Tel maître, tel disciple. Quel parallèle avec Jésus ? Les chefs religieux, ils avaient aussi exprimé leur rage contre Jésus lorsqu'il a déclaré qu'il serait assis à la droite de Dieu lors de son retour. Marc 14, verset 62. Les chefs religieux, lors de son procès, ont exprimé leur rage. On a fêté, là, c'était le jeudi de l'Ascension. Eh bien, c'est lors de son ascension, après sa résurrection, que Jésus est remonté au ciel et qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Marc 16, verset 19. Jésus s'est assis à la droite de Dieu. Être assis à la droite de Dieu, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il règne. Il règne. Or ici, vous avez remarqué, Étienne voit Jésus non pas assis, mais il voit Jésus debout, à la droite de Dieu. Comme si Jésus s'était levé pour prendre la défense d'Étienne, approuvant son message, prêt à le recevoir. quand tu témoignes de Jésus et que tu fais face à de l'opposition, ton plus fervent supporter, c'est Jésus lui-même qui se lève pour toi. Et quoi qu'il arrive, il règne. Bien sûr, il n'a pas empêché la mort d'Étienne. Mais là, on peut être sûr que Jésus l'a accompagné, Étienne, dans sa mort. Il y a un petit mot là qui montre, qui contraste tellement avec l'ambiance rageuse des chefs religieux. Il est dit qu'Étienne, au verset 60, du chapitre 7, Étienne s'endormit. Vous qui avez des enfants, vous avez vu vos enfants s'endormir dans la paix. Étienne s'endormit, et ça fait penser vraiment à une mort douce, malgré la rage de ses persécuteurs qui étaient en train de le lapider. Parce que Jésus était avec lui, dans ses derniers moments de lapidation. Il s'est endormi paisiblement. Oui, on connaît de l'opposition, pas comme certains dans d'autres pays qui en connaissent, opposition parfois violente, mais Jésus est là. Quand on veut témoigner de lui, il est là. Autre parallèle avec son maître, eh bien, Étienne remettra son esprit à Dieu et il priera pour le pardon de ses bourreaux avant de mourir, versets 59 et 60, ce que Jésus a fait. En Luc 23, donc verset 59-60 a rapproché de Luc 23, 34 et 46. Étienne est devenu le premier martyr de l'Église. Et son message, eh bien, il fut l'un des derniers avertissements au peuple juif. Son martyr marqua le début à ce moment-là, parce que vous avez remarqué en 8, verset 1, il est dit ce jour-là. Le jour du martyr d'Étienne, ça a marqué le début d'une nouvelle période pour l'Église. C'était le début d'une grande persécution pour l'Église. L'Église qui va être dispersée en Judée et en Samarie à cause de cette persécution. C'est le martyr d'Étienne qui a démarré cette nouvelle ère qui commence avec ce jour-là, verset 1. Période en apparence sombre pour l'Église. Période de rejet. Avec le martyr d'Étienne, avec la dispersion de l'Église, on dit, mais Seigneur, tu es où? Oui, il est là, et il contrôle la situation. En fait, cette période de rejet en apparence sombre pour les chrétiens va en réalité servir la cause de l'Évangile au lieu de l'arrêter. C'est tout le contraire. Ceux qui ont voulu arrêter l'Évangile, ça va faire que l'Évangile va encore plus se répandre en Judée et en Samarie. En Samarie, les Samaritains qui étaient si détestés et méprisés des Juifs. Pour le Seigneur, lorsque un de ses enfants meurt en martyr, ce n'est jamais, jamais pour rien. Voyons les martyrs comme des graines qui sont semées, qui vont donner naissance à une grande et belle œuvre de la part du Seigneur. Quelqu'un qui meurt avec le Seigneur, pour le Seigneur, ce n'est jamais pour rien. Voyons-les comme des graines qui sont semées, qui vont germer. Et c'est ce qui s'est passé. De par ce martyr et par cette persécution, l'Évangile a pu être répandu en Judée et en Samarie. Et c'est ce que Jésus avait prévu. En acte 1, verset 8, il a dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'était la poursuite de l'accomplissement de cette promesse. Le texte se termine par cette bonne nouvelle, verset 4. 8, verset 4, ce don qui avait été dispersé allait de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Le rejet a servi la cause de l'Évangile pour lui permettre d'avancer encore plus. On peut se poser la question. Pourquoi il a fallu la persécution pour que les disciples partent de Jérusalem? Est-ce qu'ils étaient trop tranquilles entre eux? Jésus leur avait dit d'aller. Je pose simplement la question. Est-ce qu'ils étaient trop tranquilles entre eux et ils avaient oublié la mission d'aller au point qu'il ait fallu la persécution? Et puis apparaît sur le devant de la scène quelqu'un, dont on va se rappeler le nom, un certain Saul, un témoin, un pharisien zélé, favorable au meurtre d'Étienne. C'est la première fois que ce nom apparaît, comme pour nous dire à ce moment, retenez ce nom, vous allez encore en entendre parler. Saul qui ravageait l'Église à ce moment-là, et qui allait bientôt devenir l'apôtre Paul, envoyé vers les non-juifs. Dieu a un plan, et la marche vers la terre promise, elle continue. Elle continue aussi pour nous, l'Église. Ce n'est pas fini, la terre promise. C'est quoi notre terre promise ? Jésus est notre terre promise. Il est à la fois notre terre promise, il est à la fois notre temple, il est à la fois notre maison. Et nous sommes sa maison, nous, l'Église. Et puisqu'il est la terre promise de tous les hommes, eh bien Dieu appelle tout un chacun à se mettre en mouvement vers la terre promise. Dieu appelle chacun à se mettre en mouvement vers la terre promise, vers Jésus. Si Jésus n'est pas encore ton sauveur, eh bien, comme il a fait avec son peuple, il veut te nourrir par sa parole et il veut te délivrer de l'esclavage de ton péché. Le péché, c'est quelque chose de très fort. Il a besoin d'être vaincu. Et Jésus est venu pour nous donner la victoire par sa mort à la croix et sa résurrection. Et s'il est déjà ton sauveur, eh bien, il t'appelle aussi à te mettre en mouvement pour être son témoin, en te rappelant que lui-même marche avec toi, avec nous. De la même manière que Jésus marchait avec son peuple dans le tabernacle, avec son peuple hébreu, avec le tabernacle qui manifestait sa présence, Dieu marchait avec son peuple, Dieu marche avec nous. Son Église, lorsque nous allons pour parler de lui, ce qu'il veut, il est là, il est là. Il est notre terre promise, déjà, et pas encore. Ce sera fini lorsqu'il aura achevé son plan et que nous serons tous avec lui pour nous réjouir. Alors, ne nous installons pas sur cette terre, on peut être bien confortable, mais considérons-nous plutôt comme des pèlerins sur cette terre. Nous ne sommes pas encore arrivés. Pas pour nous installer dans notre confort. Considérons-nous comme des pèlerins, nous ne sommes pas encore arrivés à notre patrie céleste. Mais nous avons déjà la garantie que Jésus est là, il est ressuscité. Amen, je veux prier. Oui Seigneur, quand on voit Seigneur comment tu as voulu te faire un peuple qui a commencé par Abraham, puis le peuple juif, et puis maintenant, Seigneur, c'est tout à chacun, de toute nation qui croit en ton Fils Jésus. Seigneur, tu le fais parce que tu nous aimes, tu veux que nous soyons ton peuple, et ce que tu as commencé, tu le termineras, Seigneur. Oui, Seigneur, que nous regardions à toi dans toutes les circonstances. Ce monde peut s'ébranler, Seigneur, mais toi, tu es notre socle, notre rocher. Quand nous vivons de l'opposition, Seigneur, que nous regardions à toi. C'est ce qu'a fait Étienne, Seigneur. Il a regardé en haut. Il t'a vu. Et Seigneur, il est parti en paix avec toi. Il s'est endormi. Seigneur, tu es notre secours, tu es notre sécurité, tu es notre maison. Tu es notre terre promise aussi, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, que nous nous levions, que nous soyons, oui, debout pour toi, Seigneur, et merci de ce que tu n'en as pas terminé, de ce que tu veux te faire connaître, Seigneur. Tu veux que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Seigneur, que nous soyons présents au rendez-vous que tu nous fixes, Seigneur, que qu'on se lève, quand tu nous appelles à nous lever. On se pose quand tu nous appelles à nous poser, comme tu l'as fait avec ton peuple au désert, Seigneur. Nous te remercions parce que, Seigneur, c'est toi qui as initié de te faire un peuple. Et Seigneur, donne-nous d'être les enfants du Père, de nous conduire en tant que tels, pour que le monde le voie et soit attiré par toi. Merci Seigneur, parce que rien n'arrêtera ton œuvre, Seigneur. Au contraire, tu utilises les difficultés, l'opposition pour eux, pour l'étendre encore plus. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.